Blocage de Sciences Po par des manifestants pro-palestiniens, dérapage violent lors du 1er mai et émeute après le décès du jeune Naël, voilà le plan secret de Jean-Luc Mélenchon, le chaos, la fracture, pour entraîner la guerre civile. C'est en tout cas la théorie d'Éric Nolot et Christophe Barbier, deux écrivains, deux éditorialistes qui ont chacun consacré un livre à la dérive idéologique du chef des Insoumis. Attention spoiler, la fausse retraite politique de Jean-Luc Mélenchon n'annonce rien de bon. Bonjour à vous deux. Merci Bonjour. Beaucoup d'être chez nous, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez l'un et l'autre ressenti le besoin d'écrire sur Jean-Luc Mélenchon et particulièrement sur le danger qu'il représente pour la France, pour la République, etc. Une première question, quel lien avez-vous avec lui, avec Jean-Luc Mélenchon? Je commence par vous, Christophe Barbier, parce qu'en ce qui vous concerne, Éric Nolot, il y a quelques anecdotes de votre livre sur lesquelles je voudrais qu'on revienne ensuite.
Longue histoire. Le besoin d'écrire, l'envie d'écrire aussi, parce que c'est un personnage. Jean-Luc Mélenchon, c'est un parcours. Les montagnes russes de son idéologie, mais aussi l'océan puissant de son talent de tribun, tout ça, c'était assez fascinant. Et puis, en effet, une longue histoire, parce que moi, j'ai commencé à le rencontrer au début des années 90, où il était, à ce moment-là, disciple de Mitterrand, évidemment, engagé dans une gauche très laïque, très républicaine, très sociale. Cette aile gauche du Parti Socialiste qui avait beaucoup d'énergie, beaucoup de vertu. Drey, Lindemann, Mélenchon, c'était un trio qui pesait sur l'action et surtout sur la réflexion politique. Et puis ensuite, il y a eu les années avec la gauche plurielle, son rapport distancié, compliqué, mais respectueux avec Lionel Jospin. Et puis tout doucement, cette évolution vers toujours plus de radicalité, de rupture avec la gauche classique, le PS, l'appareil du PS d'abord, et puis les valeurs fondamentales de la gauche depuis au moins Blum, Jaurès et peut-être depuis plus longtemps encore. Et enfin, la construction à la place d'une idéologie de plus en plus inquiétante, où on additionne la fascination pour Castro, le Venezuela, cette révolution-là, où on réveille les mannes de Trotsky, où on s'inspire aussi beaucoup de deux racines révolutionnaires, celle de la Commune de 1871 et celle de la Convention de 92-93, pour essayer de recréer en France un mythe et, espère-t-il, une réalité révolutionnaire. Donc cette dérive-là m'a fasciné, parce que je trouve que c'est fascinant, parce qu'il serait resté à 3%. Bon, moi, c'était une errance personnelle. Il est monté à 22, il a frisé, il a frôlé le second tour de la présidentielle. Il est, avec ses troupes, l'animateur ou le dynamiteur de la vie parlementaire depuis maintenant de nombreuses années. Ça interroge.
Et d'un point de vue plus personnel, est-ce que vous l'avez côtoyé? Quel personnage est-il en privé?
C'est un personnage extrêmement attachant. Aujourd'hui, il est très inquiétant, même quand on échange avec lui. On est surpris parfois de le voir dominé par le personnage qu'il est devenu. Mais au départ, c'est quelqu'un de très attachant. Par son parcours personnel, enfant d'Afrique du Nord, enfant d'origine assez modeste, mais néanmoins pétri de culture, autodidacte, son ascension politique, sa construction culturelle, son rapport à la franc-maçonnerie, à la littérature, tout ça en fait quelqu'un de riche, d'attachant. On ne s'ennuie jamais avec Jean-Luc Mélenchon. C'est un homme de pli et de repli, de recoin, de tiroir secret. Et moi, j'ai toujours adoré passer du temps avec lui à discuter. Ça s'est délité un peu avec le temps parce que les invectives étaient présentes, l'agressivité était présente. On a eu des moments difficiles, mais j'ai la nostalgie, j'ai le deuil, comme je l'écris, de ce Mélenchon que nous avons perdu. Qui s'est perdu.
Éric Nolot, est-ce que vous le trouvez aussi attachant que votre confrère?
Non, j'ai malheureusement pas connu le côté attachant de Jean-Luc Mélenchon. J'ai eu du respect pour lui parce que j'ouvre le livre par cette anecdote. Il est l'invité dont n'est pas couché. Et en effet, à cette époque, rien ne pouvait laisser présager cette dérive. C'était quelqu'un qui était même qualifié avec des termes un peu péjoratifs. On disait pas c'est un partisan de la laïcité, on disait c'est un laïcard. Quand on disait que c'était un républicain, on ajoutait pur et dur, etc. Et d'ailleurs, sur le plateau, le prétexte de la conversation, c'était que le NPA avait présenté une candidate voilée. Et voilà Jean-Luc Mélenchon. Alors les plus jeunes, ça les étonnera beaucoup. Je pense que beaucoup de ces jeunes partisans ne connaissent pas ce Jean-Luc Mélenchon-là. Commence à se lancer dans une diatribe anti-islamisme, anti-islam politique, anti-voile, c'est un vêtement obscène, etc., etc. Et donc, effectivement, j'ai connu brièvement ce Jean-Luc Mélenchon-là. J'étais moins au fait de la vie politique que Christophe. Donc, pour moi, Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à présent, c'était l'arrière-scène de la Mitterrandie. Je crois que son heure de gloire, c'était un poste de ministre délégué à l'enseignement professionnel, une fonction si prestigieuse qu'elle a été supprimée après lui. Donc,
mais il a été
bon. Paraît-il. Donc, moi, j'ai connu j'ai connu le Mélenchon islamo-gauchiste. La conversion a été extrêmement rapide, extrêmement radicale. Et puis j'ai connu un autre Jean-Luc Mélenchon. Christophe parlait des rapports un peu difficiles. Moi, j'ai connu quand même Jean-Luc Mélenchon qui, en deux temps, un, a exigé que je sois absent des émissions auxquelles il participait, pour y participer lui-même. Puis deuxièmement, entre deux émissions, il a même essayé de s'en prendre physiquement à moi.
Bon, voilà. J'allais y venir.
Donc là, c'est vraiment très très étrange, parce que j'ai vu quelqu'un qui quand même pète les plombs, pour user d'une expression un peu familière, très rapidement, qui présente un visage très très inquiétant. Moi-même, j'ai eu un petit coup de sang, donc vraiment, je sais bien que les gens sont friands de moments de télévision, mais voilà, je ne regrette pas que nous n'en serions pas venus aux mains, au pugilat. Mais enfin, j'ai connu tous ces côtés-là, même le côté un peu... Je me pose des questions sur l'équilibre psychique de Jean-Luc Mélenchon, parce que je l'ai vu quand même vriller en l'espace de quelques ondes. C'est quelqu'un qui a énormément de mal à se maîtriser. Voilà. Mais enfin, ça, c'est anecdotique, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la dérive idéologique. Il s'est passé pas mal d'événements depuis l'apparition du livre de Christophe et du mien, et malheureusement, tout ce qui se passe conforte ce que nous disons dans ces livres. Alors les auteurs peuvent s'en féliciter d'un point de vue intellectuel, je pense que je peux pouvoir parler pour les deux, les citoyens s'en désolent.
Donc vous faisiez référence à une émission, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, à une émission de Balance ton poste avec Cyril Hanouna en février 2021, où d'abord il refuse votre présence sur le plateau, et ensuite, pendant une pause, une coupure pub, il me semble, il vous prend à partie, et la scène est pas loin de finir en bagarre.
Oui, c'est assez bizarre, le ton est monté assez rapidement, il s'est penché vers moi vraiment dans le but de s'en prendre à moi. Moi, je vous ai dit, comme je vous ai dit, j'ai eu un petit coup de sang, donc j'ai fait le tour de la table, et il est parti en courant. J'ai pas l'impression que le courage physique soit la qualité première de M. Mélenchon, en me faisant des petits gestes dédaigneux de la main. Je trouve qu'entre la censure d'un chroniqueur et le fait de vouloir s'en prendre physiquement, je ne veux pas tirer de cet épisode un peu anecdotique des leçons générales, mais enfin, ça dessine un tableau inquiétant, hein, de censure des opposants, et puis, si ça ne suffit pas, s'en prendre physiquement à eux. C'est une tradition révolutionnaire, mais enfin, elle est quand même plus proche de 1793 que d'autres choses.
Alors, vous partagez tous les deux un constat. Jean-Luc Mélenchon s'est transformé, a complètement dérivé au fil des années. Simplement, vous, Christophe Barbier, vous pensez que Jean-Luc Mélenchon reste un fin stratège? Il calcule absolument tout ce qu'il prévoit, rien n'est laissé au hasard, ce qui laisse deviner une forme de cynisme assez profond. Vous, Éric Nolot, pardon.
Pas encore, je suis en chemin.
Vous soutenez la thèse du trouble psychiatrique, c'est ce que vous avez dit sur Sud Radio.
C'est mixte, une thèse mixte.
Je vulgarise un petit peu, mais si on prend un cas pratique par exemple, le 22 octobre 2023, quelques semaines après le pogrom du 7 octobre, Jean-Luc Mélenchon tweet à propos d'une venue de Yael Braun-Pivet en Israël. Voici la France. Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas conscience de la connotation historique du mot camper? Ou alors, et là ça ira dans votre sens, il a choisi minutieusement ce mot pour choquer absolument...
Pour moi, il a choisi minutieusement. Il sait bien qu'on va l'accuser. Il sait bien qu'il pourra dire « Comment ça ? Mais non, mais j'y ai même pas pensé. Mais vous faites la police des mots. » C'est les expressions qu'il emploie. C'est pareil. Quand Raphaël Glucksmann se fait sortir d'une manifestation du 1er mai, il dit « C'est pas bien la violence. » Mais enfin, quand même, Glucksmann, il a pas de bonnes idées, puis il aurait pas dû critiquer LFI. C'est toujours pareil avec lui. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise parfaite de ses provocations, de ses foucades. Même quand il s'en prend à des policiers qui veulent perquisitionner le siège de la France Insoumise en novembre 2018, il donne l'impression de péter les plombs, d'être dans un moment où il se maîtrise pas psychiquement. En réalité, il obtient quoi? D'abord, la perquisition, elle s'interrompt. Donc c'est gagné sur le terrain. Et puis deuxièmement, cette image fait le tour de la France, l'érige en chef des révoltés, des rebelles. Il est condamné pour rébellion. Ça participe de sa construction. Il dégringole dans les sondages. Il s'en fiche. 3 ans après, 4 ans après, il est à 22% à la présidentielle. Et je pense qu'après le 7 octobre, c'est la même chose. Il y a du calcul électoral, du calcul de stratégie révolutionnaire, créer du chaos pour pouvoir en profiter, et la certitude qu'au bout du bout, quand les gens se mettront à voter, toute la France des colères et des rancœurs se mettra d'accord pour dire le plus méchant, c'est Mélenchon. Donc il faut voter Mélenchon si on veut mordre le système. Je suis persuadé que c'est une construction intellectuelle froide, même si elle est enfermée dans un corps où le sang, en effet, parfois, est chaud.
Non, mais les deux hypothèses ne sont pas contradictoires. De toute façon, regardez l'évolution récente. Le fait de mettre de promouvoir, si j'ose dire, l'antisémitisme comme outil de conquête du pouvoir. Ça peut pas, c'est pas sur un coup de sang, c'est pas du jour au lendemain on se dit tiens, c'est une stratégie qui a été mise en place. Là, on assiste à une importation, mais vraiment dans toutes ces dimensions du conflit israélo-palestinien. Vous voyez ce qui se passe autour de Sciences Po. La véritable tête de liste maintenant des Européennes, c'est Rima Hassan. La malheureuse Manon Aubry a vraiment complètement disparu. Elle en est réduite à faire des déclarations d'amour à Jean-Luc Mélenchon. Tant de pays nous l'envie, oui, enfin tant de pays, pas tant que ça. Le Venezuela, Cuba et même la Russie poutinienne, puisque ça fait partie des admirations de M. Mélenchon. Après, je pense qu'il y a une dimension psychique. Mais en effet, je pense qu'il y a un cynisme total. Ensuite, moi, je fais une petite réserve. À force de répéter toujours les mêmes arguments, est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose de compliqué dans la tête? Est-ce qu'on ne finit pas par entrer dans les raisons de gens dont on a emprunté les arguments pour des raisons cyniques électorales? Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que là, il y a une stratégie. Et ce qu'a développé Christophe est très vrai. Par exemple, dans le cas de la perquisition, ce qu'il va perdre dans l'électorat modéré qui dit ben vraiment ce type est quand même bizarre, il se maîtrise pas, il va le gagner, le compenser et même au-delà dans l'électorat radical. Donc c'est un calcul cynique d'un bout à l'autre. Après, on voit quand même dans son comportement physique, de temps en temps, il a vraiment du mal à se maîtriser. Mais ça reste un stratège et autour de lui, il y a des gens qui l'aident à bâtir cette stratégie. M. Bompard est sur cette ligne, etc. Sophia Chikirou, qui pourtant vient du sarkozisme et d'horizons politiques bien différents, le conforte. Voilà. Et là, ils ont trouvé une porte-parole incroyable en la personne de Rima Hassan.
Et d'ailleurs, cette génération-là, Manuel Bompard, Sophia Chikirou, Mathilde Panot, etc. Tout à l'heure, vous parliez, quand vous faisiez référence au passage dans On n'est pas couché, vous parliez des militants qui n'ont pas connu ce Jean-Luc Mélenchon-là. Tous ceux qu'ils soutiennent actuellement sont des partisans qui ne l'ont pas connu il y a 10 ans et se sont greffés à la dernière version de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, à la version radicale. En fait, il y a une aspiration à la radicalité en France. Et sur le marché de la radicalité, il n'y a pas énormément de monde en réalité. Si vous voulez voter radical, vous n'allez pas voter Raphaël Glucksmann. Hein. Il ne donne pas une impression
à gauche. Ouais.
Je parle que de la gauche. Vous n'allez pas voter pour les communistes qui essayent de sauver quelques sièges. On ne sait plus trop ce que ça représente dans l'électorat de gauche. Donc en fait, voilà, il occupe une niche. Et alors tout va dépendre de combien de pourcents vont se loger dans cette niche. Moi, je n'exclus pas l'hypothèse qu'il parvienne au second tour de la présidentielle. Tout dépendra de l'offre du premier tour. Voilà.
En vous lisant, on ressent une forme de colère, une forme de peur. J'ai aussi l'impression qu'il y a de la désillusion de votre côté. Vous l'avez estimé pendant un moment et vous êtes atterré de la dérive à laquelle on assiste.
Oui, il y a du talent, il y a un parcours. On ne peut pas dire que ça soit un produit superficiel, Jean-Luc Mélenchon. Donc, en effet, il y a de la désillusion. Par ailleurs, moi, il y a de la désillusion au-delà de Jean-Luc Mélenchon. Ce pays a besoin d'une gauche radicale, d'une gauche qui défende les démunis, les gens en difficulté sociale, ce qu'on appelait jadis les classes prolétaires. C'est nécessaire dans un pays de canaliser cette colère pour d'abord améliorer leur situation en essayant d'accéder au pouvoir régulièrement et puis d'éviter que cette colère se transforme en violence dans la rue. Si vous n'avez pas de gauche radicale politique et électorale, vous avez les gilets jaunes tous les jours. Et donc il faut cette gauche. Or, cette gauche, elle est incarnée aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Donc elle trahit ceux qu'elle veut défendre. Et ça me semble terriblement inquiétant. Et au-delà d'une désillusion, c'est une vraie angoisse de mon côté. D'autant que je vois bien que cette gauche-là, cette gauche des classes sociales défavorisées, elle est partie vers le RN. Et la France insoumise essaye de la remplacer par un nouveau lumpen prolétariat qui serait issu des banlieues de l'islam. Et l'islamo-gauchisme, ça, c'est une double trahison. C'est une trahison des classes prolétaires anciennes et c'est une trahison de l'esprit républicain de la gauche. C'est une trahison de Jaurès, c'est une trahison de Zola, c'est une trahison de Victor Hugo. Et c'est une trahison de l'universalisme républicain.
Si je peux me permettre, ce n'est pas une trahison de la part de Jean-Luc Mélenchon. Cette rupture-là, elle a été faite par le passé.
Non,
par
la c'est une trahison de lui-même.
La note Terra Nova, vous la mentionnez tous les
deux
dans votre livre. Oui,
mais la note de Terra Nova, c'est quoi? C'est quelques technos qui font des calculs électoraux en disant tiens, chic, là, il y a des voix à aller chercher. Mais ce n'est pas un travail de réancrage idéologique, c'est pas un travail d'adhésion au mollah, comme dirait Dupond-Moretti. Jean-Luc Mélenchon, il va beaucoup plus loin qu'un calcul cynique. Parce que aller flatter l'électorat des banlieues, ça pouvait se faire par quelques petites mesures. Il n'était pas obligé de prendre la tête d'un mouvement qui donne l'impression que la loi républicaine et la loi islamique doivent se fondre. C'est ça qui me terrifie chez Jean-Luc Mélenchon. C'est la légitimation idéologique d'un calcul électoral cynique. On a vu où ça a amené Terra Nova, ça a amené le PS dans le mur, parce que personne n'a embrayé. Jean-Luc Mélenchon, il a développé autre chose. C'est ça qui m'effraie le plus chez lui. Et le Jean-Luc Mélenchon, qui tient son discours sur la plage de Marseille en mars 2012, immigrés de tous les pays, vous êtes le bienvenu, qui se rend compte qu'il perd les couches populaires, qui va changer de discours en 2017 en disant bah, « l'immigration, finalement, oui, mais c'est pour les capitalistes, ils veulent de la main-d'œuvre à bon marché, faut être contre ». Pour finalement devenir l'islamo-gauchiste que nous connaissons depuis environ 2018, ça, c'est un saut périlleux arrière, vertigineux et terriblement inquiétant.
C'est un livre pour ce qui me concerne, un livre de colère et d'inquiétude. Colère devant la trahison d'un homme, oui, on ne peut pas le qualifier autrement. Trahison du peuple, mais c'est surtout un livre d'inquiétude, parce qu'il faut bien savoir que là, il y a une fuite en avant qui ne s'arrêtera pas. Il y a une dérive dans l'islamo-gauchisme. Alors en général, les États-Unis, les campus américains annoncent avec quelques... Alors parfois années d'avance, mais là ce ne sera pas des années, ce sera des semaines d'avance, ce que c'est que l'importation d'un conflit extérieur qui dégénère un peu en guerre civile. Là quand même, les dernières informations qu'on a reçues, c'est que maintenant il y a des sortes de milices pro-israéliennes maintenant qui décident d'en découdre avec les militants pro-palestiniens. Quand Rima Hassan demande de se rassembler devant Sciences Po en appelant, j'ouvre les guillemets, au soulèvement, il y a quand même une importation également d'un vocabulaire. Ça ira jusqu'au bout. L'antisémitisme, ça ira également jusqu'au bout. Il n'y aura aucune limite. Ensuite, en effet, qu'est-ce que veulent les classes populaires ? Pourquoi, moi, je pense que c'est une trahison de la gauche ? Quand on encourage, comme il le fait, la racaille pendant les émeutes, qu'est-ce que c'est que la racaille ? Il pille les biens de gens plus pauvres qu'eux et ils sont encouragés par la France insoumise et M. Mélenchon. Quand il voit qu'il s'en prend aux bibliothèques et aux écoles, il fait un pas en arrière. Enfin, il aurait dû le faire directement. Quand vous encouragez la racaille, vous encouragez quoi ? Vous encouragez une situation de fait sur le terrain où maintenant des gens qui vivent dans les cités sont obligés de demander aux dealers la permission de rentrer chez eux. Vous comprenez, c'est pas chez moi que ça arrive. Moi, je ne demande pas la permission aux dealers. C'est dans les cités, parmi les plus pauvres, qu'il y a cette situation, quand ils ne ramassent pas une balle perdue, comme c'est arrivé, et comme on l'a vu encore très récemment. La même chose à l'école. À force d'encourager les menées anti-républicaines, la baïa, et puis alors tout ce qui est verticalité, tout ça, c'est fasciste, tout ça, c'est d'extrême droite, eh bien, on obtient une société à deux vitesses, où vous avez des classes supérieures qui, elles, vont très bien s'en tirer. Leurs gamins vont aller dans le privé ou dans les lycées d'élite, ou alors ils vont engager des précepteurs. Et puis vous aurez des classes populaires dont les gamins seront livrés au tout venant de l'éducation nationale, où on trouve plus important de les initier au monde merveilleux des drag queens qu'à l'accord du participe passé. Regardez, je pense que l'un et l'autre, vous fréquentez un peu les réseaux, regardez l'effondrement de tout, du vocabulaire, de la syntaxe, regardez les classements PISA, nous sommes en train de couler à pic. Et en effet, moi, en tant qu'homme de gauche, je voudrais que tous les gamins de France reçoivent une éducation qui leur donne accès à toute la littérature mondiale, ce qui est mon cas. Et je vous dis que, à l'allure que ça a pris, la plupart des auteurs que nous lisons facilement aujourd'hui deviendront une langue étrangère pour ces gamins. Balzac deviendra une langue étrangère. Je ne parle pas de Proust, je ne parle pas de Mallarmé, je parle de Zola, je parle de Balzac, des choses que les gamins lisaient.
Au profit de qui ?
Assez jeunes, au profit de Aya Nakamura, puisqu'on leur explique que c'est formidable, Aya Nakamura, qu'il faut s'adapter aux Français d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu de cet idéal républicain qui est on va vous initier à quelque chose qui est pour l'instant un peu trop haut pour vous, mais on va vous hisser, voilà, Camus, le premier homme, etc. On dit on va abaisser le niveau de manière à ce que tout le monde soit au niveau des chansons que Aya Nakamura, qui a bien le droit de les chanter par ailleurs, bien sûr, récite en volapuc.
Je suis moins pessimiste qu'Éric. Je pense que ces tendances-là, diverses, vont être arrêtées, sont déjà en train d'être combattues et qu'il y a un ressaisissement républicain. Pour la première partie, la plus inquiétante, toutes les idéologies, ça bouge déjà pas mal. Ça bouge parce qu'on en parle dans les médias, il y a des essais, nos modestes contributions et d'autres plus talentueux. Il y a dans les partis politiques quand même un ressaisissement, on se bouge. Alors on a l'impression que c'est très tard, oui, mais je ne pense pas que ça soit trop tard. Je crois que la République et l'universalisme républicain sont plus résistants et résilients que Éric ne le pense. Et qu'on va passer par un trou d'air, on est dedans, mais que ça se terminera bien. Quant à l'effondrement culturel, outre le fait que depuis Platon, on a des textes sur les jeunes qui ne comprennent plus rien.
Ça, c'est vrai.
Franchement, dans les années 60, il n'y en avait que pour les yéyés, les paroles étaient tout aussi stupides que Aya Nakamura. Ça n'a pas empêché l'élite de continuer à lire du Balzac et à assurer l'essentiel. La grandeur de ce pays, elle passera toujours par les 5-10% qui s'en sortiront et qui arriveront à faire franchir le cap du prochain siècle à notre nation. Donc il y a en effet un paysage global qui est inquiétant parce que, et notamment à cause des réseaux sociaux, on voit tout à chaque instant, on voit tout ce paysage, il est inquiétant, mais il y a quand même les Français et les Françaises qu'il faut dans chaque génération pour continuer à porter cet élitisme.
Alors deux réflexions pour tempérer l'optimisme déjà tempéré de Christophe Barbier. D'abord, je crois que dans les années 60, on n'aurait jamais choisi Aya Nakamura comme symbole de la France. Moi, que les choses soient claires, Madame Nakamura a le droit de chanter, on a le droit de l'écouter. Franchement, on est dans un pays libre, très bien, on a le droit de trouver ça génial. Simplement, quand on me dit que c'est représentatif de la France et que c'est le spectacle qu'on veut donner devant, je ne sais plus combien de personnes vont regarder la cérémonie d'ouverture, je dis que quelque chose s'est dégradé.
Oui, mais il y a aussi Charles Aznavour qui s'exporte. Les meilleures exportations, c'est Charles Aznavour, c'est Aya Nakamura. Bon, c'est la France patrimoniale d'hier, de nos générations, puis c'est cette France cosmétique à la mode tendance qui sera balayée dans quelques années. On saura plus qui c'est, mais c'est pas non plus une charge idéologique.
Non, mais je n'y vois pas un signe positif. Ensuite, il y a autre chose moi qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'en effet il y a des résistances, mais je constate quand même la porosité du milieu médiatico-intellectuel à toutes les thèses mélenchonistes, wokistes et islamo-gauchistes. Écoutez, Sciences Po est devenu le cluster de toutes les pathologies idéologiques de notre temps. Je regrette, mais le service public est devenu, pour beaucoup de chaînes, une entreprise de propagande ininterrompue. D'ailleurs, moi, je suis même admiratif. J'ouvre la radio et je me dis, ils ont encore trouvé quelque chose. Ils ont encore trouvé un sous-thème de sous-thème de sous-thème pour fourguer leur propagande. Je trouve que leur créativité est tout à fait admirable. Donc ce travail de sape qui est fait par les milieux médiatico-intellectuels, par la publicité, par également un milieu culturel où maintenant dans certaines librairies il faut enjamber deux tables ou trois tables d'ouvrages idéologiques avant d'arriver à la littérature, je trouve ça assez inquiétant. Voilà. Après, en effet, dès que vous passez le périphérique, vous voyez que le wokisme déjà devient quelque chose d'un peu plus brumeux, etc., etc. Mais enfin,
il y a une force d'inertie quand même,
oui,
rassurante.
Vrai.
Parce que dans les années, il y a 80 ans, pour ces jeunes-là de l'avant-garde éclairé, Staline était un génie. Puis dans les années 60, non, c'était Mao qui était forcément le génie, l'avenir, ou Trotsky qui était le grand homme dont il fallait réveiller les mânes. Et puis après, ça a été Pol Pot. Même certains nous ont dit, mais Pol Pot, voilà l'homme qui a compris ce qu'était la nature de l'humain. Bon, ben voilà, et ça a passé. Ces gens-là, généralement, ont fait beaucoup d'argent dans la pub, la communication, le journalisme. Bon, c'est pas glorieux leur passé, mais bon, la France et la République sont plus fortes que ça, pourvu qu'on continue à entretenir le feu sous la marmite, bien sûr.
J'aimerais bien que ça passe de mon vivant, Christophe. Est-ce que vous pouvez me l'assurer? C'est ça qui
est. Non, mais je crois qu'il faut dépasser notre propre destin.
D'accord. Ah oui, d'accord.
On est peut-être né dans un mauvais moment du siècle. Voilà. On n'a pas de chance.
Oui, c'est ce que j'appelle un optimisme très tempéré. Mais ça me fait du bien quand même.
Je reviens sur la désillusion, puisque vous titrez La République, c'était lui. Oui. C'est un grand honneur que vous lui faites. Quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon a été la République ?
Bah écoutez, à un moment, je rappelle cet épisode à On n'est pas couché. Moi, j'étais sur sa ligne. C'est quelqu'un que je respectais, dans lequel je me reconnaissais. D'ailleurs, on se reconnaît sur un programme minimal, qui est celui de la République, la laïcité, l'universalisme, enfin sur des valeurs très simples, qui sont portées par la gauche, mais partagées par beaucoup de gens qui ne sont pas de gauche. Non, moi, ça ne me posait aucun problème. Et vraiment, en sortant du plateau, vous m'auriez transporté dans le temps, j'aurais été sidéré de voir ce qu'est devenu Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. On parle quand même d'un laps de temps très court, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs moments clés. Il y a eu la note de Terra Nova, mais il y a eu une déroute aux européennes aussi, où là, ils ont dit qu'il faut vraiment changer de tactique. Et puis, les fameuses 400 000 voix qui ont manqué, et là, il faut aller les chercher à tout prix. Et à tout prix, l'expression est à entendre au sens de la lettre, au pied de la lettre, pardon. Il faut vraiment donner tous les signes d'allégeance à l'islamo-gauchisme, à toutes les compromissions possibles avec un électorat qui, par ailleurs, ne se bouge pas trop les jours de scrutin. Donc il faut vraiment augmenter la dose pour que le malade réagisse.
J'ai un souvenir très éclairant là-dessus. Je me souviens d'une conversation avec Jean-Luc Mélenchon et on était 100% d'accord sur ce point. Au moment de l'annulation des élections en Algérie, en 1991, entre les deux tours, les élections sont annulées parce que les islamistes vont prendre le pouvoir. Et on annule les élections et on empêche l'islamisme d'arriver au pouvoir. Et Mélenchon me disait, ils ont eu raison. Je mets la République, me disait-il, au-dessus de la démocratie. La démocratie est un outil, la République est un principe. S'il faut arrêter un processus démocratique parce que ça va mettre au pouvoir des gens qui sont anti-républicains, il faut arrêter la démocratie. Il a totalement changé là-dessus. Et son islamo-gauchisme, maintenant, c'est cela. Il est tombé dans l'erreur des communistes iraniens qui se disaient bon, on va aider les barbus de Khomeini à renverser le Shah, après on les balayera et on fera la révolution communiste. Ça s'est terminé par des communistes fusillés et des mollahs qui sont toujours là. Il a complètement changé sur ce point-là. Dans un premier temps, j'ai cru que c'était simplement un cynisme provisoire. Je suis d'accord avec Eric, il y a une part maintenant de conviction, il s'est auto-persuadé. Je ne sais pas jusqu'où une partie de son entourage est plus islamiste que gauchiste. Lui, je pense, est plus gauchiste qu'islamiste. C'est-à-dire, il pense que l'islamo-gauchisme est un moyen d'arriver à la révolution citoyenne, comme il l'appelle. Dans son entourage, je ne sais pas.
En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que maintenant, il place quelque chose au-dessus de la République, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Là, je crois, autour de cette table, nous plaçons la République au-dessus de tout, les valeurs républicaines. Mais à partir du moment où, par calcul électoral, vous prenez comme tête de liste officieuse Rima Hassan. Rima Hassan appelle au soulèvement, Rima Hassan appelle à une Palestine de la rivière à la mer, c'est-à-dire à la disparition d'Israël. Vous voyez bien que là, on est passé de tout à fait dans une autre stratégie politique, un autre logiciel. Moi, je suis très inquiet de savoir jusqu'où ça va mener. Je vois que ça monte de plus en plus. Il y a une nervosité en France. Pour l'instant, ça, c'est des invectives. Moi, je crains que ça ne débouche déjà sur un climat de discorde civile aggravé. Et en cas d'élection de Marine Le Pen à la prochaine présidentielle, je prévoit, je pense que c'est même inévitable, une forme de guerre civile. Alors, il y aura une forme de guerre civile.
Ça, c'est un autre constat que vous partagez. Vous pensez que l'un et l'autre, Jean-Luc Mélenchon attend la victoire de Marine Le Pen pour que la révolution ait lieu. Et si Jean-Luc Mélenchon l'emporte ?
Non, il ne peut pas l'emporter. Jean-Luc
Mélenchon
dans la révolution.
Si vous devez imaginer ce scénario-là, Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée.
Son choix radical l'empêche de gagner par les urnes. Parce qu'on est dans un pays âgé, un pays conservateur, un pays qui n'est pas fou. Jamais il ne gagnera par les urnes. Jamais. Sa seule chance, c'est de gagner par la rue.
J'entends bien, mais on va quand même essayer
d'imaginer. Faire une dystopie, bien
Jean-Luc
sûr.
Mélenchon à l'Élysée, est-ce que vous pensez qu'il est dépassé par le monstre qu'il a créé lui-même ?
D'abord, il a toujours dit que s'il arrivait à l'Élysée, c'était pour annuler immédiatement l'élection du président de la République au suffrage universel, oui, faire une sixième république. Et cette idée que son projet institutionnel, c'est de se saborder en cas de victoire, montre bien qu'en fait, il ne veut pas. Pour moi, Mélenchon, il se croit Moïse. Alors évidemment pas le Moïse de la Bible des Juifs, mais Moïse au sens « je vois la terre promise, mais je n'y mets pas les pieds ». Il veut arriver à ce moment où la révolution se fera dans le pays, et il aura complété, achevé ce que les communards ou les robespierristes n'ont pas réussi à faire.
Moi, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans votre hypothèse. D'abord, parce que Christophe a résumé l'affaire. En effet, c'est impossible qu'il obtienne 50% plus 1 dans un pays comme la France, étant donné la composition sociologique. Ensuite, ça ne l'intéresse pas tellement, en fait. C'est le processus qui l'intéresse. C'est l'insurrection. Là, il est à son aise, etc. Donc, je pense qu'il serait assez embarrassé. Donc l'hypothèse là qui serait vraiment formidable pour lui, c'est qu'il arrive au second tour contre Marine Le Pen. Il est défait même, je pense, assez largement. Et là commence 5 ans d'open bar insurrectionnel. C'est-à-dire que là, le fascisme ne passera pas, qui fait partie du petit folklore antifasciste. Là, il prendrait corps puisqu'on dirait le fascisme là dirige la France. Donc il faut s'y opposer par tous les moyens. La rue, de toute façon, c'est déjà ce qu'ils font, hein, les insoumis. Ils ont un pied dans la légalité, c'est-à-dire ils se battent à l'Assemblée nationale avec des moyens toujours un peu limites. Puis quand ils perdent, eh bien, ils organisent des manifestations devant cette même Assemblée nationale. Ça ressemble un peu aux agissements des ligues du passé, d'ailleurs. On encercle l'Assemblée nationale. Donc ils ont déjà un pied dans la légalité et un pied dans ce petit folklore révolutionnaire. Donc là, ils pourraient s'en donner à cœur joie. Malheureusement, ce serait pour le plus grand drame de la France.
Alors on en a parlé un peu en filigrane, mais vous êtes convaincus l'un et l'autre déjà qu'il sera candidat en 2027 ?
Ah, moi, ça fait aucun doute, moi.
Pour moi, ça ne fait aucun doute. D'abord, ça le tient debout. Il a plus de vie, il n'a plus de raison de vivre s'il n'est pas dans cette perspective présidentielle. Et par ailleurs, qui d'autre ? Qui d'autre ? Regardez les écarts qui ont été les siens, par exemple après le 7 octobre. Qui a surgi ? Vers quel personnage les Français se sont tournés en disant « Ah ben non, Mélenchon, c'est plus possible. Maintenant, c'est Ruffin, c'est Clémentine Autain, c'est X ou Y. » Personne. Ruffin, avec Picardie debout, il a beau de temps en temps nous faire croire qu'il y a un sondage qui a montré que peut-être il pourrait... Moi, je ne vois pas de prise. Puis il ne fait pas le boulot, il ne fait pas le Tour de France, il ne s'enracine pas. On verra bien, peut-être qu'il me fera mentir. Mais je ne vois pas chez Ruffin la capacité à reprendre le flambeau avant 2027. Par ailleurs, Après Mélenchon, ça sera le trop-plein. Les requins se déchirent déjà entre eux. C'est ce qui lui permet, en divisant pour régner, de rester ce chef-là. Est-ce que la gauche réformiste a la capacité à proposer un candidat attractif ? Je pense que Glucksmann aura toujours un handicap sociologique. Je pense que les Français ne retourneront jamais vers un modèle ancien à la François Hollande. Donc en 2027, il y aura une gauche. Elle sera radicale. Elle aimantera la radicalité. Et ça sera Mélenchon. Il a commencé en 2022 dans les premiers sondages derrière Anne Hidalgo. Elle a fini à 1,7, lui à 22. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne se reproduirait pas. Parce que d'ici là, la France n'ira pas mieux.
À un moment, de manière un peu taquine, je fais l'addition de toutes les années des mandats de M. Mélenchon. Il faut bien vous dire que cette forme de politique, c'est sa vie. En fait, ça se confond avec sa vie. Et en plus, il fait partie de cette génération où on voit que la politique vous tient en vie. François Mitterrand est atteint d'un cancer. Il arrive à faire deux septennats et il meurt peu de temps après. Vous avez vu la dégringolade de Jacques Chirac dès qu'il n'a plus été aux affaires. Je pense que ce serait la même chose pour M. Mélenchon. Moi, je ne l'imagine pas se retirer pour relire les œuvres complètes de Marx ou de Saint-Augustin. Ça le tient. Ensuite, en face, écoutez, je cite cette anecdote aussi dans le livre. On a assisté à la rébellion de M. Ruffin. Ça a duré 2 minutes. Hein. Il a fait une déclaration d'une folle audace en disant que la transition de genre était peut-être pas une priorité de la gauche. Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas donné la peine de lui répondre. Il a envoyé Maman Chiquirou qui a dit « Attention, François, pampan cucu ». Et bien, le lendemain, il a fait un mea culpa. « Je suis désolé, je ne connais pas mes dossiers, je vais travailler plus ». On était un peu dans le mea culpa des autocritiques staliniennes ou maoïstes avec une petite touche de confession chrétienne. Donc écoutez, franchement, au premier froncement de sourcils, M. Ruffin est rentré dans le rang. Je ne donne même pas la peine de me pencher sur le cas de Clémentine Autain ou d'autres. Il n'y a personne. Et là, le faux suspense, c'est pour pouvoir créer l'événement quand il se déclarera candidat. Et puis, c'est pour voir un peu comment les uns et les autres se positionnent. Et au dernier moment, il raflera la mise. Alors là, en revanche, ce sera effectivement le dernier tour de piste. C'est ça qui me rend inquiet. Parce que là, tous les moyens seront bons parce qu'il n'y aura pas d'autres candidatures. Donc on va vraiment assister au déchaînement du plus pur du mélenchonisme et ça peut nous mener très loin.
D'autant qu'il aura une chance en 2027, c'est qu'il n'y aura plus de candidat central dominant. En plus, Macron avait réussi à siphonner à peu près toutes les voix de centre-droite et de centre-gauche. Il n'y aura plus Macron, il y aura un après-Macron de diaspora, de division. Il y aura peut-être 2-3 candidats qui se revendiqueront de ce pôle réformiste gouvernemental. Ça donne un second tour Mélenchon-Le Pen. C'est ce qu'il souhaite, parce qu'il en attend une sorte de réaction explosive. Voilà, vous avez l'oxygène et l'hydrogène, et poum, l'étincelle qui fait tout sauter.
Et au sein même de la France insoumise, je veux dire, ma question va paraître un petit peu naïve, mais vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un bras de fer entre une ancienne génération, celle dont on parlait tout à l'heure, qui a connu Jean-Luc Mélenchon en 2010, et la nouvelle vague incarnée par Sophia Chiquero.
Vous avez vu quand Garrido a été sanctionné et mis au banc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est soumise. Les insoumis sont des soumis, voilà, à l'intérieur.
Non, il y a deux attitudes. Il y a ceux qui se soumettent et ceux qui partent. Il y en a qui sont partis. Ceux qui représentaient une insoumission un peu différente, qui était restée républicaine. Ensuite, il faut quand même le rappeler à ceux qui nous écoutent, il n'y a pas d'adhérents à la France insoumise. Il n'y a pas de vote. Donc en réalité, cette table suffit pour accueillir tous les gens qui décident à la France insoumise. Ils sont 4, ils se réunissent, ça dure 5 minutes, Jean-Luc Mélenchon sera candidat, et l'affaire est réglée. Donc il n'y a pas de moyen même de contestation interne, tout est verrouillé. Donc écoutez, tous les...
C'est pas un parti. Hein.
Mais non, c'est pas un parti, c'est une entreprise politique au service d'un homme, Jean-Luc Mélenchon. Donc cet homme a vocation pour ce petit comité que Jean-Luc Mélenchon, enfin de porter au pouvoir M. Mélenchon. Il n'y a pas d'autre but à l'insoumission.
Tout à l'heure, vous parliez des sondages qui donnaient Jean-Luc Mélenchon moins bien placé qu'Anne Hidalgo en septembre 2021. On l'a enterré quand même une dizaine de fois, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que sa qualité première et son talent premier, c'est d'être à chaque fois le meilleur en campagne présidentielle?
Oui, il y a deux choses. Il y a sa qualité de tribun. La politique est aussi un spectacle. Et c'est vrai que, je sais qu'Éric est moins sensible que moi à cela, mais ces grands meetings, ils sont fascinants. Sa manière de se camper, sa manière d'utiliser la langue française, même si on est loin de De Gaulle, de Malraux, bien sûr, on a perdu en qualité. Mais dans le paysage actuel, c'est quand même bien supérieur à tout ce qu'on a. Et puis, il a intégré les nouvelles technologies. Il a su faire confiance à des jeunes générations qui lui ont apporté qui TikTok et Twitch, qui l'hologramme lors de la campagne 2017, un écran. Regardez ce meeting à Nantes, je crois, où il y a un écran qui fait tout le tour de la salle et où d'un seul coup, Mélenchon dit « Donnez-moi la mer !» Puis il y a des vagues qui apparaissent sur ça. Ce spectacle-là participe d'un charisme protéiforme de Mélenchon où il y a à la fois du tribun 3ème République et puis du geek époque Elon Musk. Et ça, je trouve qu'il a su y faire. On est dans une époque où il faut faire la part de ce charisme médiatique et je pense que ça lui vaut des voix. L'autre point, il est plus important, c'est la radicalité. il y a une partie des Français qui, quand ils votent encore, veulent voter méchant. Avant, ils votaient Le Pen, Jean-Marie. Ça, c'était le vote méchant. Ça faisait mal. Voilà. On faisait mal aux puissants, on faisait mal à ses voisins de bureau, on faisait mal à son voisin dont on était jaloux en votant Le Pen. Aujourd'hui, pour voter méchant, il faut voter Mélenchon.
Oui, moi, je ne partage pas tout à fait l'admiration pour le tribun Mélenchon, peut-être parce que... Christophe a une longue expérience, plus longue que la mienne, mais quand on a connu d'autres tribuns, on se dit, bon, qu'en effet, moi je trouve qu'il y a des grosses ficelles, que
oui,
c'est quand même moins subtil que
mais
Mitterrand.
Mais Marché aussi, il y avait de grosses ficelles.
Oui, c'est un bon, d'ailleurs, c'est un très bon
et
parallèle. Bah c'est un
oui,
très bon parallèle.
Ça marchait pas mal.
Mais étant donné l'effondrement du niveau intellectuel, en effet, tout d'un coup, Mélenchon, ça devient des roulades, bon, etc. Bon, grand tréma. Bon, après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'époque ayant changé, il y a chez Mélenchon... quelque chose d'une créature médiatique. C'est-à-dire c'est devenu quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il est un peu... Je reviens avec le parallèle avec Aya Nakamura, je la remets sur le tapis. En fait, les gens adhèrent aussi parce qu'ils adhèrent à quelqu'un qu'ils reconnaissent, parce qu'il est présent sur TikTok, en effet, ce que peu d'hommes politiques, même si c'est un peu ridicule ce qu'il fait sur TikTok. Mais en tout cas, ça touche la jeunesse avec les moyens... d'aujourd'hui. Et la jeunesse est particulièrement réceptive à ce qu'on s'adresse à elle via les canaux que d'autres négligent. Après, en effet, la radicalité, pour moi, c'est la clé de tout. Il y a un ressentiment en France qui est plus vivace que jamais et il faut trouver quelqu'un qui représente ce ressentiment, qui le prenne en charge. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre que Mélenchon. Et d'ailleurs, le jeu que joue Marine Le Pen et Jordan Bardella est un peu troublant de ce côté-là, parce qu'ils incarnent de moins en moins cette radicalité. Donc il y a un appel d'air en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Et vous avez raison, on l'a enterré. Moi, ce n'est pas mon cas. Je prends pour 2027 l'hypothèse Mélenchon très au sérieux.
Tout à l'heure, vous avez parlé de Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'on peut faire une comparaison de diabolisation? Qu'est-ce qui manque à Jean-Luc Mélenchon pour être autant, peut-être qu'il l'est déjà plus, que Jean-Marie Le Pen dans les années 90?
Je pense qu'il est au-dessus en performance électorale. Il y avait dans les dérapages et les excès de Jean-Marie Le Pen toute une série de verrous républicains qui se mettaient en place, notamment à droite. On a vu la position d'un Jacques Chirac, on a vu comment ça a empêché Le Pen d'aller au-delà de ce 21 avril 2002 où il plafonne à l'accès au second tour. Il n'y a pas les verrous à gauche par rapport à Mélenchon. La gauche a été mise en miettes par Mélenchon beaucoup plus que Le Pen n'avait réussi à détruire le gaullisme de droite.
Oui, en même temps, la gauche actuelle, si on reprend par exemple les cadres de la NUPES, je crois que Fabien Roussel, Monsieur Faure, etc., dès qu'ils le peuvent, marquent leur opposition avec Jean-Luc Mélenchon.
Pas Olivier Faure. Olivier Faure a ancré le PS dans la NUPES dans une opération de sauvetage électoral. Et c'est vrai qu'il aurait eu 4 députés s'il n'avait pas fait la NUPES, donc peut-être qu'arithmétiquement il a eu raison, mais ça l'a mis en position de soumission, de soumission idéologique. La gauche socialiste réformiste ne pense plus, elle ne produit plus d'idées nouvelles. Les idées nouvelles sont produites par Mélenchon. On a parlé de l'islamo-gauchisme, mais Mélenchon a produit aussi un discours depuis 10 ans d'écologie radicale. Il faut lui reconnaître cela. Il a produit des discours, des mots, le lawfare, la révolution citoyenne, les gens. Quand Mélenchon, il y a une dizaine d'années, arrive en disant « vous les gens ». C'est lui qui a inventé ça. La logomachie, ça existe en politique. Le PS est une étoile morte depuis l'échec de Lionel Jospin. Et plus rien n'a été produit, sauf le président normal de François Hollande, qui était une espèce de dernier crachouillis de lumière. C'est tout. Et donc voilà, et quand vous êtes dans cette situation-là, il n'y a pas de solution, sauf à attendre que surgisse une nouvelle époque. Cette nouvelle époque, pour moi, elle s'ouvre après 2027. Si Mélenchon peut être candidat, parce que bon, il peut prendre la foudre, il y a l'affaire des assistants parlementaires, mais s'il est candidat en 2027, il bloque le jeu jusque-là. Au lendemain de 2027, dans une France où peut-être la présidente s'appellera Le Pen, ou bien il y aura une alliance des macronistes et de la droite actuelle, on verra bien. Là, quelque chose de nouveau peut redémarrer à gauche, peut-être par les collectivités locales, par les associations, par les intellectuels. Quelque chose de nouveau peut commencer à ce moment-là. Jusqu'en 2027, il y a un caillou sur la route qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon.
C'est-à-dire que l'émancipation des autres forces de gauche n'a lieu que quand la boutique n'est plus en jeu. Ben, voilà. Donc là, les européennes, c'est parfait. Parce que là ils haussent le ton, ils roulent des mécaniques. Mais dès que la boutique est en jeu, c'est-à-dire que quand il y a des législatives, par exemple, là, c'est soumission totale.
Ben, s'il y a une dissolution à l'automne, on verra tout de suite.
Ben, oui, voilà. Donc Fabien Roussel et tous les autres, Olivier Faure, ils font un pas en avant, puis deux pas en arrière. Là, ils peuvent s'en donner à cœur joie encore pendant quelques mois. Vous verrez qu'après les européennes, ça va de nouveau changer. Donc il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Non, ça va être très intéressant en 2027 parce que selon les scores obtenus par les uns et les autres aux européennes, on va voir si une candidature unique de la gauche est encore à l'agenda ou pas. Voilà. C'est sûr que si Glucksmann fait le double du score de Jean-Luc Mélenchon, je pense que l'hypothèse d'une candidature unique façon NUPES vraiment tombe d'elle-même. La gauche, je ne sais pas comment la nommer, social-démocrate, hein, encore que Glucksmann, ça soit très nébuleux, moi, je trouve. Je ne sais pas ce que bah,
c'est
que
sa le. Force d'être nébuleux.
Oui, le Glucksmannisme, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais
c'est
bon.
Sa force d'être nébuleux et de pouvoir avoir pareil. Pierre Jouvet avec lui, mais aussi de dire qu'il n'est pas NUPES.
Son succès actuel à Raphaël Glucksmann, cette petite hausse dans les sondages qui est quand même assez. Ok, voilà, pas plus. Je perds mon mot, mais à prendre en considération, on va dire que ça. Qui est pas plus...
Jadot a fait 13 en 2019, loin devant Manon Aubry, quasiment le double. Bon, qu'est-ce que ça a donné en 2022, la présidentielle? Bah là, Glucksmann récupère l'électorat Jadot, puisque la candidate écolo est aux abonnés absentes. Il récupère peut-être des macronistes de gauche un peu déçus. Et puis, en effet, c'est le candidat médiatique à la mode, Glucksmann. Voilà. Et puis, il a fait des progrès, il a bien travaillé au Parlement européen. Il y a aussi des aspects positifs. Que ça puisse porter, que ça soit le socle d'une gauche social-démocrate réformiste qui gagne la présidentielle en 2027 et qui nous fasse dire à tous « Ouf, la République est sauvée et elle est sociale », alors ça, j'y crois pas une minute.
Non, d'autant que du temps de la NUPES, M. Glucksmann ne voyait aucun inconvénient à s'allier avec un partisan de tous les régimes autoritaires, alors si, le glucksmannisme, on peut quand même le définir par l'antitotalitarisme. Là, tout d'un coup, la boutique était en jeu, donc c'est pas très grave, les déclarations pro-syriennes, pro-poutiniennes, etc. Donc je pense que le socle idéologique du glucksmannisme, en tout cas, moi quand même, toute voix de gauche qui ne se porte pas sur Jean-Luc Mélenchon est une bonne nouvelle pour moi. Donc, à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Moi, je me réjouis plutôt. Mais enfin, en effet, je ne vois pas beaucoup d'avenir au glucksmannisme. Maintenant, pour des gens qui ont connu, en effet, le score d'Anne Hidalgo ou d'autres déroutes, il y a quelque chose qui doit donner un peu de baume au cœur, quand même. Voilà. Donc, pas d'excès de triomphalisme, certainement pas, mais pas non plus tenir ce phénomène pour entièrement négligeable. Voilà.
J'ai une dernière question à vous poser. Tout à l'heure, vous avez parlé de tous les concepts idéologiques que Jean-Luc Mélenchon a mis sur la table. Il y a celui de la créolisation. Parce que vous parlez beaucoup de l'islamo-gauchisme. Il y a surtout la créolisation qui est un petit peu, j'ai envie de dire, l'aboutissement de son projet. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce terme, la créolisation? Puisque c'est dans un logiciel de pensée bien plus à droite que le vôtre, un synonyme de grand remplacement.
Oui, même si c'est beaucoup plus nourri, selon moi, de stratégie postcoloniale, et donc de remords par rapport à la France coloniale, que de grands remplacements, c'est-à-dire accueillons les immigrés d'Afrique noire ou d'Afghanistan. Je pense que c'est comme ça qu'ils procèdent. Ça participe aussi de cette stratégie qu'on appelle islamo-gauchiste, parce que les thèmes d'actualité tels que la baïa ont dominé le débat. Mais c'est la même chose pour Jean-Luc Mélenchon, c'est de se dire comment je peux aller chercher un électorat qui est un électorat du ressentiment anti-républicain. Voilà. La République m'humilie parce que je suis musulman. Alors, je suis islamo-gauchiste pour plaire à cet électorat-là. La République m'humilie parce que je suis noir ou basané de peau ou parce que je viens de l'outre-mer ou parce que je viens des anciennes colonies. Et il va essayer de chercher à flatter cet électorat-là. C'est d'autant plus facile et agréable pour lui qu'il y a une vraie racine intellectuelle. Vous allez trouver des écrivains pour ça. Vous allez pouvoir mobiliser des écrivains gentils, Aimé Césaire ou plus méchants, Frantz Fanon. Et donc vous allez pouvoir dire que c'est enraciné. Donc pour moi, ça participe de la même stratégie.
Ben, d'abord, moi j'invite tout le monde à lire les textes sur la créolisation d'Édouard Glissant, qui sont quand même d'une immense foutaise. Vraiment, que ce qu'on puisse prendre ça au sérieux, moi, ça me sidère. Parce qu'en fait, la thèse, c'est... Bah, écoutez, la créolisation, c'est très simple. Vous mettez en contact deux cultures et vous voyez bien ce qu'il en sort. En fait, c'est un concept de la pochette surprise. Ben, moi, je regrette. La France, pour moi, c'est pas une pochette surprise. Ensuite, je développe un moment une métaphore. Les gens qui arrivent en France arrivent dans un appartement meublé. Moi, j'attends de ces gens qu'ils aient du respect pour le lieu et pour les meubles. C'est-à-dire qu'ils ajoutent leurs propres meubles, que différents styles cohabitent dans une même pièce, tout va bien. La France n'est pas un concept figé, une France éternelle qui serait figée pour les uns à l'époque napoléonienne ou Louis XIV, etc. Simplement, le fait de dire que tout doit disparaître pour que je me mette à mon aise, non. Voilà. Donc, et c'est un peu ça la créolisation. La créolisation présente un grand avantage, c'est à la fois de s'adresser aux populations immigrées et à la frange progressiste, qui trouve que c'est formidable. Vous avez vu la une de Libé, tous métissent. Et alors, non, mais si on se métisse, c'est très bien, mais que le métissage puisse devenir dans votre vie un idéal ou de confondre un idéal politique et un idéal privé, c'est-à-dire par exemple, pour prendre un exemple simple, vous allez épouser une femme noire, non pas parce que vous en êtes amoureux, mais parce que vous portez le métissage qui serait l'avenir de l'humanité. Enfin, moi, je trouve ça absolument sidérant. Donc, en effet, il joue sur du velours. Maintenant, je pense que la créolisation, c'est pas quelque chose qui marche très bien d'un point de vue électoral. C'est un outil parmi d'autres. Ce qui marche beaucoup mieux, on en a dit deux mots, mais je le répète peut-être pour préciser ma pensée, c'est de répéter toute la journée aux populations immigrées qu'en fait, elles ne vivent pas en France, mais à Gaza, que la France est une sorte d'Israël en grand et qu'en effet, quand ils se révoltent, c'est une forme d'intifada. Voilà. Donc, c'est de confondre cette réalité Israël-Gaza avec la France des métropoles et celle des banlieues. La créolisation est un outil idéologique parmi d'autres, mais je suis très étonné qu'on puisse prendre cet argument au sérieux. Et avant de se prononcer, relisez les textes fondateurs de ce concept de créolisation. Je suis atterré, affligé par la faiblesse de ce concept.
Et pour revenir sur ce que vous disiez, en ce sens, Rima Hassan est un peu l'incarnation parfaite, rêvée de Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, ça a dû être le jackpot de croiser une dame qui, sur la forme, est quand même très douée à l'oral, et assez bonne dans la contradiction, etc. Mais sur le fond idéologique, colle très pour.
Oui, et puis en plus, elle est présentée comme... Je crois que d'ailleurs, c'est un peu abusif. Je crois qu'elle a seulement la nationalité française, mais elle est toujours présentée comme franco-palestinienne. Donc vous avez le mot-clé, c'est une palestinienne. Donc, qu'est-ce qui se passe? La France insoumise est donc le parti de la Palestine. Donc votez pour nous. Et il y a des appels, j'ai vu certaines sections locales de la France insoumise qui appellent les électeurs à voter sur cette base-là. N'oubliez pas que nous avons été les seuls à défendre ceci, cela, que le 7 octobre, nous avons dit ça, nous avons été les seuls à qualifier le Hamas de mouvement de résistance. En fait, ça se joue là. Maintenant, le concept de créolisation, c'est un outil idéologique que Jean-Luc Mélenchon agite un peu, d'ailleurs sans avoir trop lu les textes, hein, parce qu'il en parle de manière extrêmement vague. Mais je crois que la clé vraiment de cette campagne européenne et des 3 ans qui vont nous mener jusqu'à la campagne présidentielle, c'est en effet le conflit israélo-palestinien, l'antisémitisme comme outil de conquête du pouvoir.